Vous êtes en compagnie de Rukaita Abdrahmane pour l'édition de 18h ce mercredi 30 octobre 2019. Fidèles auditeurs, bonsoir et bienvenue. À la une de cette édition, environ 7 milliards de francs CFA, c'est le montant des frais de scolarité des étudiants nigériens à l'étranger non encore payés par l'État. Le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens réagit. Pour parler de la nécessité de protéger le très riche patrimoine paléontologique et archéologique du Niger, les responsables du projet Niger Héritage étaient face à la presse nationale ce matin à Niamey, des précisions dans ce journal. En fin d'édition, un entretien avec Fatima Alher, une étudiante en master de géographie qui a initié une cartographie des zones vulnérables aux inondations à Niamey et à Gaya. La compagnie militaire de Blabrin, à une quarantaine de kilomètres de Ndjindjimi, région de Difa, a été visée hier nuit par une attaque. C'est selon une dépêche de l'AFP, informée par une source municipale sous couvert d'anonymat qui évoque un bilan de 10 morts. Un haut fonctionnaire de Difa a confirmé l'attaque à l'AFP. Le montant des arriérés des frais de scolarité des étudiants nigériens à l'étranger avoisinerait 7 milliards de francs CFA. C'est selon le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, USN, pour qui cela est une honte pour l'étudiant à l'étranger. Al-Ghabit Idder interpelle le gouvernement sur notamment les étudiants nigériens de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, actuellement en difficulté. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
Cette situation elle est d'ordre général. Beaucoup de nos camarades aujourd'hui qui étudient à l'extérieur sont frappés par ces difficultés liées aujourd'hui à l'incapacité de l'État nigérien à accomplir son devoir, celui qui consiste à payer les frais de scolarité de ces étudiants qui sont à l'extérieur. Nous avons alerté depuis très bien longtemps le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ANAP par rapport à ce qui peut être aujourd'hui les conséquences du non-paiement de ces frais de scolarité. Aujourd'hui, le gap avoisine les 7 milliards. C'est une humiliation pour nos camarades qui sont dans certaines écoles attachées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous, nous ne pouvons pas cautionner cette situation.
Est-ce qu'à part Sénégal, il y a d'autres étudiants nigériens qui sont dans la situation similaire?
Nous avons des étudiants au Burkina, le cas de Désiré, nous avons des étudiants en Guinée qui vivent la même situation, nous avons des étudiants au Mali qui sont dans la même situation. Et qu'aujourd'hui, même ici au plan national, les écoles commencent à menacer. L'État doit prendre ses responsabilités et effectuer des efforts dans ce sens pour que nos camarades arrêtent de subir cette honte.
Faire découvrir au public nigérien le patrimoine paléontologique et archéologique préhistorique important dont dispose le Niger, c'est le but visé par Niger Héritage, un projet américain qui lutte pour la préservation et la célébration du patrimoine paléontologique, archéologique et culturel du Niger. Face à la presse ce matin à Niamey, Didier Dutey, paléontologue, a déclaré que le Niger est le pays africain où il y a plus de structures de dinosaures. Il était interrogé par Gallo Maria.
La paléontologie, ça consiste surtout à l'étude des organismes qui ont vécu avant les premiers hommes. Et le Niger est connu pour être le pays africain où il y a le plus de dinosaures. Donc un patrimoine paléontologique préhistorique relativement important, mais n'a pas les structures pour accepter tout ce patrimoine. Il se trouve que le gouvernement du Niger nous a permis d'exporter le matériel que nous avons trouvé, mais par convention, et ce qui est tout à fait normal, et c'est une loi du Niger qui édicte ça, la loi de 1997 sur le patrimoine culturel et scientifique du Niger, on doit tout rapporter au Niger. Le Niger n'a pas les structures pour ça. Donc la structure qui s'appelle Niger Héritage voudrait construire un grand pavillon de paléontologie et de préhistoire à Niamey et un musée centré un petit peu sur la paléontologie et l'archéologie, mais aussi sur toutes les cultures du Sahara à Agadez.
25 femmes des partis politiques venues de Niamey, Tillabéri, Dosso et Tawa viennent d'être formées à Niamey par l'ONG FAD, appuyée par l'ambassade de France afin d'améliorer la participation politique de la femme en vue des élections prochaines au Niger. Mariama Mahmoud Jibo, membre de l'ONG.
L'objectif de cette activité, c'est vraiment d'outiller les femmes pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes candidates aux élections et également ce que ces candidatures soient des candidatures de qualité. La formation porte sur deux thématiques telles que les thèses juridiques en faveur des droits des femmes. Donc déjà, nous avons abordé la Constitution nationale déjà qui prime la hiérarchie des normes et également les lois nationales qui font la promotion des droits de la femme. Et ensuite, elles seront entretenues sur les stratégies de communication politique afin de mobiliser leur électorat et également avoir une bonne position dans leur parti. Au-delà de la formation. Il y aura d'autres activités qui seront mises en œuvre. Nous sommes en train également de créer une application mobile et un site web, tous dénommés paniers virtuels, qui seront disponibles sur les téléphones portables de tout un chacun. Donc ces femmes sur cette application mobile peuvent retrouver le recueil de tests et tous les modules qui ont été utilisés lors de cette formation. Également toute information qui est importante pour une femme afin qu'elle puisse bien participer à la politique.
Dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, c'est le thème des journées portes ouvertes qu'organise jusqu'à demain jeudi l'ONG Marie Stopes Niger à Niamey. Selon la coordinatrice Dr Adama Abdoulaye, ces dépistages gratuits visent à aider les femmes à comprendre leur statut à la fin du mois octobre rose. Elle est au micro de Habibou Garba.
Ce mois d'octobre rose, comme on l'appelle, c'est un mois de lutte contre le cancer. Donc on a profité de ce mois pour organiser ces journées. Le dépistage, ça te dit déjà des lésions précancéreuses, même pas le cancer. Parce que le cancer du col, ça c'est trop scientifique, je ne vais pas rentrer dedans. Il n'apparaît pas comme ça d'un seul coup. Donc il y a tout ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Ça prend du temps avant d'évoluer, ça passe par des lésions précancéreuses. Et quand on le diagnostique au stade de lésion précancéreuse, on peut guérir le malade dans 100% des cas. Il y a une prise en charge. Déjà, pendant le dépistage, s'il y a une infection, on reconnaît ça. On donne des ordonnances pour les infections. Donc déjà, elle connaît son statut. Elle saura s'il est positif ou négatif. S'il est positif, il y a là où on va l'orienter. S'il est négatif, il y a un rendez-vous qu'on lui donne dans un an pour venir se faire dépister encore.
La direction départementale des enseignements secondaires de Filengué vient de former 130 enseignants et directeurs du secondaire des départements de Wallam, Bani Bangou, Abala et Filengué. Des précisions avec Maman Amani Nahanchi, directeur des enseignements secondaires, interrogé par Abdoulaye Bagassa à Filengué lors de la formation.
L'objectif visé, c'est remédier à la violence dans le milieu scolaire. On a choisi ce thème parce qu'on a remarqué qu'on est dans une zone d'insécurité et ces phénomènes de violence ont des répercussions négatives sur le fonctionnement normal du système scolaire et sur les élèves eux-mêmes. Donc, il y a eu une formation de 130 enseignants venus de plusieurs zones, c'est-à-dire de Bani Bangou, Wallam, Abala et Filengué. On a fait 4 sessions de formation, de 3 jours, 3 jours. On a fait en 12 jours et on a clôturé hier. On a vraiment eu un rudiment qu'on va donc répercuter au niveau de nos élèves, au niveau de nos établissements pour contrecarrer en tout cas la violence en milieu scolaire.
Dans le département de Gaya, il est constaté depuis quelques jours la présence d'éleveurs et de leurs troupeaux à proximité des champs alors que les récoltes sont en cours. Chose intolérable, a déclaré Hamidou Diaouga, préfet du département de Gaya, qui exhorte les éleveurs à retirer les animaux. Il est interrogé par Fadel Alou.
Depuis un certain temps, nous apprenons la descente des animaux aux abords des champs, particulièrement dans la commune de Tanda, vers le village de Albarkeze, où un certain nombre d'éleveurs se sont regroupés autour des champs. Pas de dégâts, mais il y a la menace qui est là. Et cela a fait qu'on a demandé à leurs responsables, les Rouga, de les sensibiliser pour qu'ils retirent leurs animaux en attendant que les agriculteurs puissent vraiment libérer les espaces. Les brousses sont là, les aires de pâturage, les aires de repos sont garanties et sont garnies d'eau. Donc, il n'y a rien qui puisse justifier la présence d'animaux dans les champs. Nous ne pouvons pas tolérer cet état de fait-là. Ce message, je tiens à l'adresser aux Rouga et aux responsables de l'association des éleveurs, notamment Finadado, actifs dans le département.
La Commission nationale des élections professionnelles organise un atelier d'évaluation du processus électoral cette semaine à Niamey avec une quarantaine de participants des centrales syndicales et des représentants du gouvernement. L'objectif étant de passer en revue le chronogramme, voir les acquis et les contraintes rencontrées lors du scrutin du 31 juillet 2019. Issadan Azoumi, président de la Commission nationale des élections professionnelles, donne des explications à Adama Dawaki.
Il s'agit de relever les points forts de l'exécution du processus électoral, les activités qui ont connu une bonne exécution, et relever toutes les difficultés ou contraintes inhérentes à cette activité, proposer les correctifs nécessaires permettant d'éviter les écueils rencontrés au cours du processus électoral qui vient de s'achever. Le problème de l'accès aux ressources entravé la conduite du processus, plus. Des dépenses n'ont pas pu être toutes prévues. Et il a fallu les faire. Par les difficultés financières, lorsqu'il s'agit de recenser les électeurs pour construire le fichier électoral, les agents recenseurs ont présenté quelques faiblesses. C'est un point sur lequel l'atelier devra porter sa réflexion pour qu'à l'avenir, donc, ce point ne se pose plus. Les acquis, déjà, c'est que les attentes du gouvernement sont satisfaites puisque le gouvernement voulait savoir quels sont ses interlocuteurs en matière de dialogue social. Donc, 5 centres syndicaux se sont détachés. La CONEP a accompli sa mission et la première mission qui lui est confiée.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et
Studio Kalangu, au rythme du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition. Face aux récurrentes inondations en saison des pluies au Niger, une étudiante en master de géographie a initié une cartographie des zones vulnérables aux inondations à Niamey et à Gaïa avec l'appui du PNUD et du PGRCDU. L'objectif est de prévenir les catastrophes avec des mesures adaptées. Fatima Alher donne des précisions sur cette cartographie au micro de Moussa Hassan.
Il y a quelques mois, vous avez initié une cartographie pour répertorier les zones vulnérables en cas d'inondation sur les rives du fleuve, notamment à Niamey. Une étude qui a été prise en compte par la Banque mondiale et PJRC. À ce jour, où en êtes-vous avec cette cartographie?
Ce projet a consisté vraiment à cartographier les zones qui sont vulnérables aux inondations. Donc là, on a pu faire commune 5, Saga, Goudal et Losogongo. Les données de cette étude sont en train d'être utilisées actuellement par les ministères de l'action humanitaire. Ces données les permettent maintenant de savoir les zones qui sont vulnérables aux inondations et quelle serait l'intervention en cas d'une catastrophe. Ils sont disponibles sur un site libre que tout le monde peut utiliser.
Il a été question d'élargir cette cartographie à d'autres régions du Niger.
La ville de Niamey a été vraiment une phase pilote, donc il était l'idée vraiment d'élargir ce travail dans les autres régions comme Agadez, Tawa, Dosso, Tilaberi. Mais malheureusement, là, on est toujours à l'attente. Donc, mais tout récemment, avec PNUD, à travers les résultats qu'ils ont vus, ils nous ont approchés pour faire la même cartographie à Gaïa. Et là, on a fait la même étude à Gaïa et à Tanda. Cette étude a permis la mise en place d'un mécanisme opérationnel de suivi et d'alerte précoce aux inondations de la commune de Tanda et la ville de Gaïa.
Qu'est-ce qui bloque l'élargissement de cette étude sur toute l'étendue du territoire national?
Il faut qu'ils comprennent d'abord l'importance de ces données qui ont été collectées en collaboration avec les différents acteurs, parce que ça ne sert à rien de faire un travail et que personne ne l'utilise. Il faut que vraiment les autorités ou bien nos partenaires, les institutions sachent que déjà il existe ce genre de données qui peuvent être utilisées. On sait que la réponse aux inondations au Niger est principalement une réponse après sinistre. On ne prévoit pas. On fait chaque fois de la gestion. Alors que si on arrive à faire une prévention, je ne peux pas dire que ça peut régler les problèmes des inondations au Niger, mais ça peut réduire les impacts, comme les décès.
Donc actuellement, les données sont utilisées comment?
Il n'existe pas encore un système opérationnel de prévision des inondations, autant pluvial que fluvial. Récemment, on a un peu discuté avec le ministère de l'Action humanitaire pour connaître les zones qui sont vulnérables aux inondations. Ces données sont en train d'être utilisées. Mais au-delà, ils peuvent savoir le nombre de ménages, le nombre des enfants, le nombre des femmes, le nombre des bâtiments et leur emplacement. C'est une cartographie socio-économique parce que ça vous permet de connaître la zone et en même temps d'avoir des informations sur les ménages, les personnes. Pour moi, pour régler ce problème d'inondation, il faut une prévention.
Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Hawa Ousmane pour le forum de la presse en Hausa. Bonne suite de réception.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu, au rythme du Niger.